Ils sont auteurs et autrices de livres jeunesse, confinés comme tout le monde, comme vous, comme moi. Et ils ont décidé d'unir leurs talents pour vous offrir chaque jour une histoire. De l'aventure, du policier, de la tendresse et de l'amour. Albin Michel Jeunesse ouvre en partenariat avec RTL, pour vous les enfants, sa grande bibliothèque. Je suis Laurent Marsic, chroniqueur jeunesse dans Laissez-vous tenter. Dans cet épisode, je vous propose d'écouter l'histoire d'Anya et Tigre Blanc dans un pays enneigé où règne un roi dur et injuste et où sévit une terrible malédiction. L'histoire est lue par son auteur, Fred Bernard. En librairie, ce livre est illustré par François Roca. Voici la première partie.
Les enfants ne disparaissent pas comme ça. Aucune trace sur la neige. Quelqu'un ou quelque chose avait dû les prendre. Mais quoi ? 4 saisons s'écoulaient au pays du Grand Blanc. Celle de la neige au-dessus des bottes, celle de la neige à la taille, quand les humains marchaient en raquette, celle de la neige jusqu'au cou, quand les humains se déplaçaient dans des tranchées, celle de la neige par-dessus la tête, quand les humains progressaient dans des tunnels. Cette année-là, l'année des premières disparitions, les parents accusèrent d'abord les tigres à l'est. Les tigres renvoyèrent la faute aux éléphants au nord, qui accusèrent à leur tour les rhinocéros au sud. D'après ces derniers, c'était les ours de l'ouest qui avaient fait le coup. Les loups, qui depuis très longtemps s'étaient alliés aux humains, affirmaient ne rien savoir. À l'époque, hommes, femmes et animaux se parlaient facilement. Les chevaliers demandaient à leurs destriers l'autorisation de le monter. Les fermiers s'excusaient auprès de leurs poules en ramassant leurs œufs. Les éleveurs demandaient pardon à leurs cochons avant de les égorger. Toutefois, humains et animaux ne se comprenaient pas toujours très bien et régulièrement des querelles éclataient. La vie n'était pas facile au pays du Grand Blanc, car le roi, comme son père et son grand-père avant lui, était dur, sévère, injuste et laissait au peuple à peine de quoi survivre. Moi, je sais tout, mais je ne dirai rien. Je vous raconterai cette histoire comme si je n'avais rien vu. Comme si j'étais né du dernier blizzard, blanc comme neige. À l'époque, tout était blanc encore. C'était avant la grande fonte. Moi, je suis le temps. Pas le temps qu'il fait, le temps qui passe. Les femmes me craignent plus que les hommes, mais elles me résistent mieux et vivent plus longtemps qu'eux. Pour les pères et les mères, voir leur enfant partir avant eux était insupportable. Parler de la neige et du beau temps leur évitait de penser à moi. Mais voilà que quelque chose, ou quelqu'un, ne laissait plus le temps aux enfants nouveau-nés de grandir. La première année, plusieurs bébés disparurent du jour au lendemain. Un an plus tard, des enfants commençant à marcher s'évanouirent sans laisser d'empreintes. L'année suivante, ce fut le tour de petites filles et de petits garçons de 2 ans, puis ceux de 2, 3, 4, 5 ans, tant et si bien que toute une génération d'enfants s'évaporait, absente du royaume. La colère, la panique, les angoisses gonflaient, faisant ressortir les vieilles religions et de dangereuses croyances. On lut dans le vol des corbeaux et on conclut à une malédiction. Les parents avaient caché les rares enfants épargnés de cette génération perdue. Enfermés à triple tour dans les maisons, les caves ou les pigeonniers, dans des cabanes près des lacs ou dans la forêt, rien n'y faisait. Les enfants restants de 9 puis 10 ans, de 11 puis 12 ans, disparurent eux aussi, comme par enchantement. Certaines familles avaient adopté des petits tigres, des petits ours, des petits éléphants, des petits rhinocéros que les animaux leur avaient gentiment confiés. Et ces bêtes aidaient les hommes au champ, à la pêche ou à la chasse. À chaque nouvelle disparition, les loups partaient à la recherche des enfants et à chaque fois rentraient bredouilles. Le peuple était désespéré. Les hommes grondaient. Le roi et la reine s'étaient isolés dans leur tour d'ivoire dès la première disparition. On ne les voyait plus. Le couple royal espérait que cette affaire se tasse comme neige lourde et mouillée. C'est que le roi et la reine avaient également eu un enfant lors de cette année maudite. Un fils qui allait avoir 13 ans. Un futur souverain. Il avait été présenté au peuple à sa naissance, puis personne ne l'avait jamais revu. Avait-il disparu comme les autres ? Il était toujours au château, disait-on. Était-ce grâce aux hauts murs, à la garde royale qui veillait nuit et jour sur ses murailles, qui le protégeait et faisait de lui l'exception qui confirme la règle. Dès les premières disparitions, le château n'avait cessé de s'agrandir. Il était de plus en plus beau, de plus en plus haut, et de plus en plus d'impôts tombaient sur le dos des parents effondrés. Étrangement, les enfants des autres générations, frères et sœurs des disparus, vivaient leur vie normalement, grandissaient et vaquaient sans crainte à leurs occupations. C'était à n'y rien comprendre. Le mystère semblait voué à demeurer entier à tout jamais. Allez, je vais vous en dire plus. Après tout, le temps fait parfois bien les choses. Je vais vous parler de cette petite fille nommée Anya. J'avais eu le temps de la voir grandir jusqu'à ses 12 ans, jusqu'à ce qu'elle disparaisse à son tour. Je l'avais tout de suite remarquée, elle était forte tête et très belle, et je pensais qu'elle allait me craindre énormément. Mais non, pas du tout. Anya se moquait pas mal de sa beauté, et elle n'était pas très coquette, et jouait indifféremment à la poupée, à la guerre, à la dinette ou à la chasse, et s'inventait toujours des histoires exaltantes. Je m'en réjouissais. Les parents d'Anya s'inquiétaient, eux, beaucoup pour elle. D'abord, Anya avait un frère jumeau, Lucas, disparu alors qu'il était bébé, ce qui avait plongé ses parents dans une détresse indescriptible. Ensuite, comment protéger une petite fille qui déborde d'imagination, ne tient pas en place, n'en fait qu'à sa tête, n'a peur de rien, et répond à qui veut l'entendre « Qu'on vienne me prendre, je saurai me défendre, je me battrai, je tuerai cette chose, et je reviendrai à la maison avec du sang sur les mains s'il le faut. » Ses parents avaient remplacé Lucas auprès d'eux par un bébé tigre pour les aider à défendre Anya, le cas échéant. Le tigre était devenu le meilleur ami de leur fille et ne la quittait pas d'une semelle, hormis quand il allait rendre visite au sien. Sans doute, le fauve avait-il offert à la fillette de sa douceur et de sa sauvagerie. Il lui avait aussi donné une grande confiance en elle. Elle l'avait appelé « Tigre blanc ».
Ainsi s'achève la première partie d'Anya et Tigre blanc de Fred Bernard, paru aux éditions Albin Michel Jeunesse. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL sur rtl.fr et vos plateformes favorites.